Merci infiniment, très chers collègues, professeur Caroline, pour votre exposé et pour l'intérêt que vous avez porté à cette approche critique. Et vous avez parlé de très, très vive voix pour mettre en perspective aussi bien les points forts que les points critiques de la législation et de la pratique au niveau de l'Union européenne. Et merci pour la richesse des informations que vous avez déniées. Intégré dans votre discours que l'on va attendre vivement de le lire dans les cadres de travaux de ce colloque. Donc, je vous remercie infiniment aussi d'avoir respecté le temps. Très rapidement, on va passer à la troisième intervention et la troisième intervention, elle sera meublée par votre humble serviteur. Et je ne sais pas s'il serait question de conflit d'intérêts, intervenant et président. Je ne sais pas, monsieur le professeur Julien Coua. Donc là, c'est la question à laquelle on va répondre tout à l'heure. Je salue notre public, les étudiants qui arrivent, et je vois aussi arriver à la salle notre cher confrère et ami, le professeur Alain Guillotin, qui a honoré la salle en daignant s'associer à nous. Donc, merci pour tous les participants et merci à ce grand public. Sans trop tarder, moi-même, je vais vous faire ma présentation sur la responsabilité environnementale avec une approche nationale. Donc, vous auriez bien compris que ce serait le droit tunisien sur lequel je vais focaliser et l'intitulé de mon intervention est, tel que je l'ai mentionné, la responsabilité sociétale, plutôt environnementale de l'entreprise, le jeu et les enjeux. Donc, je voudrais apporter une petite précision sur le fondement de mon choix, pourquoi le jeu et les enjeux. Tout d'abord, je dois vous dire, comme je l'ai tout à l'heure dit, dans le cadre de mon propos d'ouverture, il y a une actualité brûlante, certes, à l'échelle internationale, mais chez nous, sur le territoire tunisien, l'actualité est si brûlante que l'on en parle tous les jours et toutes les organisations nationales et internationales s'intéressent aujourd'hui à la responsabilité sociétale de l'entreprise en général et à la responsabilité environnementale de l'entreprise en particulier. Cet intérêt particulier porté à la RSE dénoterait, à mon sens, de plusieurs enjeux. Et effectivement, et c'est à partir de là que je vais partir et je vais commencer, les enjeux de la RSE, dans le sens pas général de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais de responsabilité, environnementale de l'entreprise et au carrefour des enjeux politiques, économiques et social. Donc, nous avons trois enjeux et sur lesquels je souhaiterais mettre l'accent dans le cadre de cette introduction. Avant de ce faire, je dirai un mot dans le cadre de cette introduction sur la responsabilité sociétale de l'entreprise en général en Tunisie, en droit tunisien, la responsabilité environnementale de l'entreprise. Et je dirais également un mot sur les objectifs du développement durable tels que intégrés dans notre législation. Ce triptyque RSE et développement durable RSE, responsabilité sociétale et responsabilité environnementale de l'entreprise très rapidement. Ma voisine de droite, professeure Caroline, a remonté dans l'histoire pour rappeler l'intégration de la RSE à l'échelle de l'Union européenne. Moi-même, je voudrais attirer votre aimable attention sur le fait que en Tunisie, on n'est pas du tout en décalage par rapport aux objectifs internationaux et par rapport à la politique internationale. Nous avons porté un intérêt particulier à la responsabilité sociétale de l'entreprise depuis pratiquement les 2 dernières décennies. Et il se trouve que nous avons en Tunisie le déclenchement, c'était lié particulièrement à l'affaire Scandale qui remonte à 2014. C'était les déchets qui ont été C'est une affaire qui a pris une dimension internationale, les déchets qui ont été versés dans l'océan à partir de Bizerte, de méditerranéen, depuis l'Italie, qui ont été jetés dans la mer et qui sont arrivés en Tunisie. Et c'est un conflit qui a eu une dimension internationale. Donc ça remonte à 2014. Et à partir de là, les autorités tunisiennes ont pris à l'extrême sérieux l'intérêt à la RSE. Ceci étant, on est arrivé à un point tel que nous avons mis en place une législation nationale en 2018 qui sert d'un cadre de référence générale à la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et je cite la loi du 11 juin 2018, cette loi sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui elle-même intègre un paramètre, pardon, très, très important au développement durable et la responsabilité environnementale de l'entreprise. Ça, c'est par rapport au cadre général, mais c'est une loi qui reste lettre morte parce que elle n'a pas du tout été, entre guillemets, activée dans la mesure où, comme d'autres lois en Tunisie, on n'arrive pas à activer parce que les textes d'application tardent toujours à venir. Donc, dans la circonstance nationale, c'était une réponse à ce scandale, entre guillemets, un peu politique de cette affaire qui a opposé un peu la Tunisie à l'Italie et toute la dimension politique qui a été liée. Donc voilà un peu le cadre de la mise en place de la RSE dans son acception environnementale. Ceci étant, on doit rappeler à nos chers étudiants que lorsqu'on parle de la responsabilité environnementale, on vise une dimension particulière de la responsabilité sociétale de l'entreprise, cette responsabilité sociétale qui est en mesure d'intégrer plusieurs dimensions sociétales, économiques et environnementales. Nous avons déjà étudié les autres aspects de la responsabilité dans les éditions 1, 2, 3 de ce colloque annuel et nous arrivons cette année à l'aspect environnemental, particulièrement sur lequel je vais m'attarder par rapport à une approche nationale particulièrement. Donc voilà, grosso modo, les intérêts qui s'attachent à cette étude. Aujourd'hui, il y a un intérêt particulier en Tunisie à la responsabilité environnementale. Comme je viens de le dire, non seulement le législateur, en sa qualité d'acteur principal de création, de mise en place de la loi, mais nous avons les autres secteurs, d'autres autorités, et ce sont particulièrement les organisations nationales qui accordent un intérêt à la responsabilité environnementale. Et je vise particulièrement, à titre introductif, l'œuvre de l'université à un point tel que l'on parle de la responsabilité sociétale de l'université. Et je cite également l'œuvre de l'Ordre national des avocats, qui porte un intérêt particulier à la RSE dans sa dimension environnementale. Et je cite également l'œuvre des organisations arabes qui œuvrent en Tunisie et qui travaillent sur le même projet, sur le développement durable. À Tunis, on attend plusieurs autres colloques qui vont être organisés sur cette question. Donc voilà, ceci étant de l'actualité brûlante qui est liée à la thématique de ce colloque. Quand on parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise en général et de la responsabilité environnementale de l'entreprise, l'on devrait, et ma voisine à gauche a bien daigné s'interroger sur la spécificité de cette responsabilité. S'agit-il effectivement d'une responsabilité? J'aurai à répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, j'ai choisi effectivement d'observer, de respecter deux stations différentes. Dans la première station, je vais parler des enjeux et dans la seconde station, je parlerai du jeu de cette responsabilité très rapidement. Les enjeux de la RSE, de la responsabilité environnementale. Quand on va aborder les enjeux de cette responsabilité environnementale, la question qui se pose, et là aussi, c'est un intérêt que je porte au rapport entre le fait et le droit, entre le modèle économique en Tunisie et la règle de droit. Je viens de vous dire en introduction que nous avons accueilli favorablement la RSE. Cet accueil de la RSE, c'est la traduction et c'est le miroir d'un changement économique dans ce sens où le modèle économique aujourd'hui en Tunisie, il est basé certes sur le modèle libéral, mais nous sommes aussi à cheval avec le modèle tertiaire qui est lié à l'économie sociale et solidaire. Donc, à titre d'enjeu, je voudrais vous dire que nous assistons à une transformation fondamentale au niveau des choix économiques. Et cette transformation fondamentale des choix économiques s'est répercutée sur la règle de droit. Ici, je vais me permettre de vous dire très rapidement, en termes de statistiques, et mes confrères toulonnais ici, était de cela il n'y a pas longtemps à Tunis pour prendre part à un colloque sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie en tant que modèle économique alternatif qui a été mis en place et qui est en rapport trop étroit avec la RSE. Donc, si l'on parlait aujourd'hui de la responsabilité environnementale et sociétale de l'entreprise, cela devrait traduire le passage d'un modèle économique libéral vers un autre modèle économique qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, ce modèle qui est basé particulièrement sur trois triptyques qui seraient l'utilité sociale d'une part et qui seraient la primauté de l'homme d'autre part et en dernier lieu le développement durable. Donc ça tient de la politique de la Tunisie de promouvoir ce modèle économique tertiaire qui souhaite intégrer l'idée de l'utilité sociale et du développement durable. Donc voilà, et en termes de statistiques, en venant ici, j'ai bien regardé autour de moi et c'est particulièrement sur le site du ministère de l'Économie que j'ai pu constater que notre économie, elle est à 30%. Une économie sociale et solidaire, c'est juste pour dire que les enjeux sont pour l'intégration de ce paramètre de l'ESS en général et de l'économie sociétale de l'entreprise en particulier et de l'économie, de la responsabilité environnementale de l'entreprise à titre très, très spécial et à titre très particulier. Donc là, c'est par rapport à cette relation fait et droit, économie et droit, on ne pouvait pas accueillir cette responsabilité si l'on n'avait pas franchi le cap et changé d'un modèle économique vers un autre. Le discours politique, c'est un discours très protecteur de l'homme, de la place de l'homme et surtout de l'utilité sociale. Et toutes les lois, elles doivent servir l'intérêt de l'homme aujourd'hui et l'intérêt de l'homme demain. Et nous sommes bel et bien dans la spécificité de la RSE, qui est une responsabilité, c'est une réponse et c'est une intégration des besoins de la société actuelle, mais des sociétés futures. Et quand je parle de la société actuelle et de la société future, je passe très très rapidement au jeu de la responsabilité. Et la deuxième station que je marquerai, c'est une station qui répond un peu à la question qui a été soulevée par mon ami à ma gauche, professeur Marjorie. Est-ce au vrai sens du terme une responsabilité? Et la question que j'apporterai, c'est une responsabilité, mais c'est une responsabilité qui est très, très particulière. Le jeu de la responsabilité environnementale de l'entreprise. Je m'attarderai très rapidement sur les règles de fond et les règles de la procédure. Je voudrais commencer par la procédure de la RSE en général et de la responsabilité environnementale en particulier. Quand on parle d'une responsabilité, de l'action d'une responsabilité, On parle d'une action et on parle d'un acteur. Notre cher ami, professeur Couard, a commencé son discours ce matin en rappelant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Cour des droits de l'homme, la décision du 12 novembre 2024, que moi-même j'ai lu un petit commentaire ce matin sur la page LinkedIn. Et on a bien vu que la Cour a mis l'accent sur l'acteur de cette responsabilité. Est-ce qu'on peut agir pour l'intérêt de toute la société d'aujourd'hui et de toutes les générations futures? Et la question qui a été soulevée, c'est la qualité de l'acteur, l'intérêt duquel on va justifier et la question de la capacité. Le triptyque procédural pour agir en justice, qualité, intérêt et capacité. Et par rapport à la qualité, la question qui se pose et qui se pose toujours devant la Cour européenne de la justice est de savoir si l'action en responsabilité sociétale est-ce l'œuvre de toute la société et toute la société, elle peut agir. Pour aujourd'hui ou pour demain, la question et la réponse qui a été apportée, c'est non. Ce sont les associations, ce sont les organisations qui doivent avoir la qualité d'agir et ce n'est point donné en général à toute la communauté parce que cela devrait mettre en cause un intérêt général confus et abstrait, comme ça vient d'être rappelé par Caroline tout à l'heure sur la confusion des notions. Donc, pour engager une action en RSE, la première question à laquelle on devrait répondre, comment peut-elle jouer et quel est l'acteur de cette responsabilité? La deuxième question sur le plan de la procédure, encore une fois, quel serait le tribunal à devoir pouvoir accueillir cette action et avec le professeur Poir? On se rappelle ce débat qui a été engagé à Tunis entre la justice étatique et la justice arbitrale. Et est-ce que la justice arbitrale serait en mesure d'accueillir des procès de RSE? Donc c'est un peu compliqué sur le plan de la procédure, mais cette complication procédurale tiendrait en réalité d'une question fondamentale. Très rapidement, donc les quelques peut-être minutes qui me restent, je passerai directement au fond pour attirer votre attention, à mon humble sens, sur la difficulté liée au fond de la règle de droit. Quand on parle de responsabilité dans le modèle classique, nous sommes bel et bien dans le cadre d'un dommage, d'une faute, et nous sommes aussi dans le cadre d'un lien de causalité. Il y a ce triptyque de la responsabilité. À bien vouloir le transposer à la RSE, la question qui devrait se poser, c'est de savoir si effectivement l'on pouvait rattacher cette faute à une règle de droit préétablie. Et c'est là l'intérêt qui a été rattaché à la distinction entre la hard law et la soft law, et est-ce que les bonnes pratiques et le droit souple pourraient servir de fondement à cette action de la RSE? Donc, c'est tout le problème du droit souple qui soulève la question de savoir s'il était possible de justifier des sanctions au sens obligatoire. Donc là, au fond, le problème, il vient du droit applicable entre hard law et le droit souple, effectivement. Et en plus de ça, les intérêts à devoir protéger. Quels sont les intérêts à devoir protéger? Dans la responsabilité classique, il y a toujours une personne bien définie qui est demanderesse et il va y avoir la défenderesse. Dans la RSE, on doit préserver les intérêts de toutes les parties prenantes, dont l'intérêt de la société et le droit de l'homme au sein de la société à un environnement sain. Et donc, à partir de là, et je rejoins Caroline quand elle a bien daigné rappeler la confusion de ces notions, l'environnement sain et quelle est la ligne de démarcation à devoir tracer entre un environnement sain et un environnement qui ne l'est pas. À Tunis, on attend toujours depuis des années. Ma consœur Neila le dira tout à l'heure et ma doctorante Fatma Balkala aurait aussi à le dire, qu'on attend toujours la promulgation d'un code de l'environnement qui tarde à venir, à l'instar de tous les autres codes qui attendent depuis des années et des années et qui ne viennent toujours pas. Je souhaite toujours finir sur une note positive. La mienne serait de vous dire que j'arrête presque sans abuser de votre gentillesse, encore moins de votre temps. Merci.
Merci.